Salut Daniel, et ben moi je voudrais féliciter Christine Lagarde qui, dès le lendemain de la mort de Sœur Emmanuelle, continue son œuvre en donnant 10 milliards d'euros aux plus pauvres de ce pays, c'est-à-dire les banquiers. Voilà, c'est quand même très très bien que Sœur Lagarde continue cette œuvre gigantesque. Et j'espère que lors de sa prochaine visite devant Benoît XVI, notre petit Nicolas demandera la canonisation de Sœur Lagarde. Salut!
Salut Daniel, qu'est-ce que j'apprends? En pleine période de crise, on va mettre aux enchères 18 marches de notre belle tour Eiffel pour prix de départ 80 000 euros. Ce patrimoine collectif va faire le bonheur d'un collectionneur privé. Après avoir perdu leur liberté, leurs emplois, leurs banques et bientôt leurs économies, les Français vont voir partir dans les mains de grandes fortunes telles que des banquiers, des assureurs et pourquoi pas des traders, notre histoire commune, notre patrimoine. Après tout, c'est peut-être une chose à investiguer pour financer la crise et aider nos banques spéculatrices à éponger leurs dettes. Vendre le patrimoine des Français comme de simples marchandises. À quand des morceaux du Louvre, de Versailles ou les tombes de nos poilus sur eBay ou dans de grandes salles parisiennes. Un monument de cœur, un morceau de notre patrimoine français nous a quittés. Sœur Emmanuelle. Son âme nous a quittés, mais son corps est toujours parmi nous. Elle qui a œuvré toute sa vie pour les autres, dans la vie et dans la mort. Patrimoine national, elle ne serait peut-être pas contre d'être elle aussi dépecée et vendue aux enchères pour alimenter les caisses vides de notre beau pays. Je me dégoûte, Daniel, mais je suis tout simplement le fruit d'une société elle-même dégoûtante, sans scrupules et sans éthique. Yalla. Franck, Andilly, Val d'Oise.
Bonjour, je viens d'écouter l'émission là et j'ai trois questions à poser. La première, dans cette vallée là-bas, ceux qui ont vendu les entreprises, ça devait bien être des patrons qui ont vendu les entreprises. Et ils devaient savoir le sort réservé aux salariats quand ils sont rachetés par des compagnies nord-américaines. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont vendu ce patrimoine? C'est une des questions. Deuxième question, toute cette stratégie de plan de licenciement qui a déferlé, dans quelles écoles, est-ce qu'il y a des écoles de financiers? Est-ce que Mermet, quand aux États-Unis, pourrait interroger ses professeurs, je veux dire, où c'est qu'ils ont appris à faire ça? Et troisièmement, on n'a pas de nouvelles de Pascal Lamy de l'OMC pendant cette crise financière sur la mondialisation, la globalisation. Ce cher Pascal Lamy, on ne l'entend pas. Qu'est-il devenu et qu'a-t-il à dire? Merci beaucoup, c'est Sylvaine du Tarn. Au revoir.
Bonjour Daniel. Qu'aurais fallu faire si le traité de Lisbonne était en application actuellement? Puisque dans son article 56, il interdit toute aide à partir de l'État vers l'entreprise en difficulté. Qu'aurait fallu faire si aujourd'hui la décision c'était de débloquer 10 milliards et demi d'euros pour aider les banques? Ça, c'est interdit par le traité de Lisbonne. Cette question, s'il vous plaît, auditeur, aidez-moi à la répercuter à tous les élus, surtout de gauche. Qu'aurait fallu faire, puisque vous avez signé à Versailles un traité qui interdit ce type d'aide? Pourquoi vous êtes en telle contradiction? Posez-le la question et rappelez-leur que l'État, c'est nous, c'est nos cotisations qu'on a mis ensemble, c'est nos richesses. Et c'est que nous devons décider sur la démarche à suivre en des circonstances pareilles. Pourquoi, monsieur le député, vous avez choisi un traité néolibéral? Alexandro, vous appelez de Tarbes.
Eh ben, c'est vraiment un grand plaisir d'entendre un entrepreneur appeler sur le répondeur de là-bas si j'y suis, parce que c'est ça, quoi. L'entrepreneur, c'est pas un mec qui est censé faire du profit, c'est un type qui rassemble des techniques, des gars, des choses pour un projet, pour entreprendre, en fait. Il a pas vocation à faire du profit. Le capitaliste, lui, c'est un type qui fait du fric avec du fric. Mais l'entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui bâtit, qui construit, qui fait des choses. Et à la limite, que ce soit rentable ou pas, il s'en fout. Les grands entrepreneurs, c'est des types qui t'emmènent sur la Lune, qui t'emmènent n'importe où. Et c'est un vrai bonheur de l'avoir entendu, quoi. Et puis, comme lui, j'ai envie de dire salut aux gauchistes. Je me sens pas particulièrement de gauche, et pourtant, je suis l'émission depuis très longtemps. Et voilà. Donc, salut à tous, et y compris aux gauchistes, quoi. Ciao.
Bonjour. les déclarations offusquées de M. Sarkozy et M. Fillon sur les brigands de la finance sont une merveille d'hypocrisie. Ce système des jeux financiers, ils l'ont toujours porté en exemple dans l'Europe et dans le monde. Et ils l'ont défendu bec et ongle. Leur projet de privatiser la Poste en est un exemple parmi tant d'autres. La Poste fait 1 milliard de bénéfices aujourd'hui et il y a toutes les raisons du monde pour ne pas la lâcher dans la jungle spéculative. Mais non, ils insistent par idéologie aveugle. Le bon peuple paiera s'il y a de la casse. Leur politique de livrer tous les services publics à la privatisation, c'est-à-dire à la spéculation boursière, en est la preuve irréfutable. Monsieur Fillon est bien mal placé de donner des leçons, lui qui n'hésite pas, pour un seul déplacement privé en famille, à dépenser 9 000 euros de l'argent du contribuable. Où est son éthique à lui? Et Monsieur Sarkozy? Et son slogan, travailler plus pour gagner plus, à qui s'adressait-il? Sûrement à ses amis très riches. En effet, plus l'argent travaille, et plus il rapporte pour les actionnaires. Mais plus l'argent travaille, plus il entraîne de chômage pour le peuple. Merci, Monsieur Sarkozy, pour votre baratin séducteur. Au revoir à tout le monde. Ciao.
Ça doit être assez jubilatoire quand même. Pour toi. Je pense à toutes les émissions que tu fais depuis plusieurs années, à la base, si j'y suis, pour dénoncer les excès du libéralisme, les déréglementations, etc. Et puis maintenant, de pouvoir ressortir toutes ces émissions, maintenant que le libéralisme s'effondre. Il paraît que Montebourg a fait un article dans Le Monde, dans lequel j'ai trouvé ça pas mal comme idée. Il compare l'effondrement de Wall Street à l'effondrement du mur de Berlin. Pour les gens, bon, ça allait de soi, quoi. L'effondrement du mur de Berlin, c'est la fin du communisme. Alors, l'effondrement de Wall Street, c'est pas la fin du capitalisme? Ça semble aller de soi, quoi. Comme récemment, j'ai entendu dans une émission à 2000 ans d'histoire, un type qui faisait l'apologie de Jean-Paul II et qui disait que Jean-Paul II avait contribué à l'effondrement du communisme, mais qui, de toute façon, le communisme ne pouvait que s'effondrer à cause de ses contradictions internes. Alors, je trouvais ça extraordinaire, un mec qui dit ça. Tandis que le capitalisme n'a pas de contradictions internes. Il roule bien, le capitalisme. Même quand il s'effondre, c'est pas sa faute à lui. C'est la faute aux gens qui ne savent pas s'en servir. Voilà. Bon, allez, bonsoir.
Merci, chers AMG, auditeurs, auditrices modestes et géniaux et géniales, pour ces messages que j'écoute ici depuis Cleveland, en Ohio, où la situation de la crise financière est assez terrible parce que c'est assez visible. Cleveland est devenue la capitale de l'expulsion. La capitale de l'expulsion, il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, au premier semestre de cette année, il y a eu plus de 2 millions d'expulsions, 2 millions de familles qui ont été expulsées rien que pour ce premier semestre. Mais en 2006, il y a déjà eu des centaines de milliers d'expulsions, suite évidemment à cette histoire de subprime et de prêts hypothécaires. Dans les 2 années qui suivent, on prévoit 2 millions, à nouveau 2 millions de familles qui seront expulsées au total. On estime qu'il y aura 10 millions de familles qui seront ainsi expulsées, parfois de façon très musclée, comme on dit. Alors, on voit que ça date pas d'hier, cette histoire. Ça date pas d'hier. Mais c'est quand c'est arrivé sur Wall Street que on a commencé à s'inquiéter. Et on pose ici Wall Street à Main Street, c'est-à-dire Wall Street, vous savez ce que c'est, et Main Street, c'est-à-dire la rue moyenne des gens moyens. Et on oppose les deux. Et hier, on est allé à Akron, non loin de Cleveland, pour voir le quartier où s'est produit cette histoire que j'ai évoquée hier, de cette vieille dame de 90 ans, Addie Polke, qui, alors que on venait l'expulser, 90 ans, on venait l'expulser, a fait une tentative de suicide, heureusement en vain, mais qu'on a retrouvé baignant dans son sang à 90 ans. Eh bien, ce qui scandalise les gens du quartier, qui eux aussi sont menacés par ces expulsions, c'est que c'est pas cette dame-là qu'on va aider, c'est la banque. C'est la banque qui lui a prêté l'argent. C'est l'usurier qui est protégé dans cette histoire. Voilà pourquoi le mur, ce mur, cette chute du mur n'est pas pour demain. Parce que justement, les gouvernements sont là pour maintenir ce mur à coût de milliards de dollars et d'euros. C'est le combat qui se produit actuellement. Mais la question qui est posée de savoir quand est-ce que cette crise va atteindre l'économie réelle, elle a déjà atteint l'économie réelle. Et on va en avoir la preuve aujourd'hui, dans le deuxième volet de cette nouvelle diffusion de ce sujet, Ma mondialisation. C'était le film de Gilles Perret, et on va voir comment, depuis longtemps déjà, dans cette région de Savoie, on a pris cet exemple-là, la finance, les fonds d'investissement ont commencé déjà depuis longtemps à détruire l'économie réelle. Voilà le thème d'aujourd'hui. N'oubliez pas, évidemment, tous à Amiens ce soir chez François Ruffin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel. Voilà, c'est Stéphanie en Alsace. Vendredi, il y a quelques jours, c'était le numéro 90. 90, c'est le nombre de suicides en prison cette année. Un numéro pour la population française qui a peut-être retenu cette information. 90, c'est aussi un homme que suivait mon époux. Il est visiteur de prison et vendredi, il devait aller voir celui qu'on allait ficher 90. Sauf que ce vendredi, il était au Micard et qu'il n'a pas pu le voir. Et quelques heures plus tard, il s'était pendu derrière nos murs de France. Voilà, c'est pas pour dire que derrière ces murs s'y cachent des agneaux, c'est juste pour dire qu'il y a des hommes qui ont détruit des vies, qui ont détruit leur vie, et puis qui vivent là loin des regards. Voilà, et puis mon époux, cette nuit, il n'a pas dormi, il a écrit un peu, et je voudrais vous lire ce qu'il a écrit. Cette nuit, j'ai du mal à fermer l'œil. Le 90e suicide dans les prisons françaises, pour moi, il avait un nom. J'étais son visiteur et je ne dirais pas volontairement c'était mon détenu, car le 90e suicide dans les prisons françaises était libre de choisir ou non de me rencontrer. Par contre, ce vendredi, il n'a pas eu le choix. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai croisé la conseillère d'insertion et de probation qui m'a dit « Il a pris 15 jours de mitard pour refus de réintégrer et insulte à un surveillant. Mais quand tu reviendras dans 15 jours, il sera sorti et tu pourras le voir à nouveau. » Lors d'une de mes visites, il m'avait prêté une brochure sur le Coran en me recommandant bien de la lire parce qu'à ses yeux, j'étais un mécréant et que dans ses écrits, je trouverais le chemin de la vérité. Ce vendredi, je lui ramenais cette brochure que je n'avais d'ailleurs pas pris le temps de lire en entier et comme je ne pouvais le voir, j'ai confié celle-ci à la conseillère d'insertion et de probation qui se chargerait de la lui rendre. Je comptais en reparler avec lui comme à chacune de mes visites, car le Coran faisait régulièrement partie de nos échanges. J'avais d'ailleurs déplacé l'heure de visite du vendredi parce que ce jour-là, il avait aussi la visite de l'imam et ne voulait si possible rater ni l'un ni l'autre. Ce vendredi, pendant que je discutais avec les détenus, il s'est pendu dans la cellule du mitard. Cette nuit, j'ai du mal à fermer l'œil. Le 90e suicide dans les prisons françaises s'appelait Mohamed et il n'aimait pas qu'on l'appelle Momo. Allez, ciao à tous.
Salut Daniel, salut Agnès, c'est François. Écoutez, je vous appelle pour vous dire que ce soir à Amiens, il y a la seconde Teuf à Babeuf pour refaire 89. Après du théâtre, après un hymne à Gracchus Babeuf, hein, qui était picard, après un coup à boire, on se demandera si pour refaire 89, il faut liquider le PS ou pas. Et c'est la question qu'on posera, entre autres, à Henri Emmanueli, notre invité. Donc c'est à partir de 18h30 à Amiens, à la salle de Wailly. Voilà, et je vous remercie et puis bon voyage aux États-Unis, Daniel. Ciao.
Bonjour les AMG et tout particulièrement les AMG de l'Essonne. Je vous laisse ce message pour le deuxième rendez-vous du Café Repère de Savigny-sur-Orge, en Essonne. Et donc, il aura lieu ce mercredi 22 octobre à 20h30 au Café Chez Tonton, 37 rue de la Liberté, à Savigny-sur-Orge. Et le thème abordé aujourd'hui sera Utopie, Urgence. Voilà, alors je répète, c'est Chez Tonton, 37 rue de la Liberté, à Savigny-sur-Orge, en Essonne. Alors à vous voir nombreux, tous et toutes, Chez Tonton. À très bientôt les AMG, salut à tous.
Les médias qui ont un appétit insatiable pour les anniversaires ineptes, il y a 30 ans, on fête la première démission de Chirac, c'est bien intéressant. Il y a 25 ans, on fête la mort de Georges Brassens, on perd son âme. Mais enfin, c'est pas des événements quand même très très importants. Personne n'a songé à fêter, il faudrait mettre des guillemets, hein, l'anniversaire de la loi de déréglementation de 1986. Je peux vous garantir qu'elle nous a fait changer d'époque.
Salut, c'est Daniel Mermet, là bas si j'y suis avec François Ruffin, la mondialisation heureuse. Flight number 2,
arriving from... Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont tout retiré l'argent tout de suite, puis ils ont coulé. C'est-à-dire, on pompe sur l'entreprise, évidemment, après ça résiste pas. Hein. Dans le fond, je crois qu'ils avaient pas de grande vue, même s'ils coulaient après, c'était pas leur... je pense que c'était pas leur problème.
Eux, c'est... du résultat tout de suite, et ils s'en foutent, ils foutent le camp, ils s'en foutent des salariés et tout.
Le MEDEF devrait se dire, surtout ne licencions pas chez Y, parce que demain je vais licencier chez X. Alors qu'aujourd'hui on a l'impression de dire, ah vas-y Y, vas-y, licencie, tu te porteras bien mieux, et X suivra ton exemple. Moi ça me désole.
C'est le capitalisme pur et dur, hein, là. On vient, on vide l'entreprise, on dégage les salariés, alors ils traitent des chiffres. Hein. Ils ne voient pas la conséquence humaine à côté.
Alors, qui cause, là, d'après vous? Qui vient de parler syndicaliste, salarié, chômeur, intello, journaliste dissident? Eh ben non, vous avez compris, ce sont des patrons. Pas forcément des petits patrons, d'ailleurs. Hein, dans cette vallée de larves, et non pas de larmes, pas encore, où nous nous rendons, sur 30 km environ, eh bien, c'est là que l'activité est consacrée au décolletage. Et c'est 70% du décolletage français qui s'effectue là, à travers plus de 522 entreprises, plus de 10 000 salariés. C'est donc une activité intéressante. Quoi. Ça marche. Ça commence à branler dans le manche. Cette activité, on nous a expliqué ce qu'est le décolletage, une fabrique de petites pièces métalliques généralement circulaires, qui datent de la fin du 19e, la Savoie, pas loin de Genève, l'horlogerie, alors l'hiver dans les campagnes, eh bien on décolletait, on tournait des pièces, et puis voilà, ça s'est développé, notamment grâce aux bonnes guerres mondiales, la première, et puis la seconde, et puis l'automobile, etc., si bien que un développement formidable. Sauf que, eh bien voilà ce que nous dit l'économiste Frédéric Lordon dans cette introduction, 1986, la loi de déréglementation. Eh bien voilà, ça fait quoi, 86, 2006, 20 ans. 20 ans d'application peu à peu de cette loi, de ces principes qui veulent étendre, qui ont voulu étendre le libre-échange à travers toute la planète et laisser agir la main obscure, hein, du marché. C'est-à-dire que, eh bien, il suffit de laisser faire et tout s'arrangera. C'est pas une théorie tout à fait nouvelle. J'ai sous les yeux, envoyé par un auditeur, un texte du prince Louis-Napoléon Bonaparte dit Badinguet dit 3. Napoléon 3. qui, dans un ouvrage fameux, fameux à son époque, « L'extinction du paupérisme », disait ceci, je cite, Napoléon III, je le cite, « L'industrie, cette source de richesse, n'a aujourd'hui ni règles, ni organisation, ni but. C'est une machine qui fonctionne sans régulateur. Peu lui importe la force motrice qu'elle emploie. Broyant également dans ses rouages des hommes comme la matière, elle dépeuple les campagnes, elle agglomère la population dans des espaces sans air, affaiblit l'esprit comme le corps et jette ensuite sur le pavé, quand elle n'en sait plus que faire, les hommes qui ont sacrifié pour l'enrichir leur force, leur jeunesse, leur existence. » Et plus loin, Napoléon III, je le rappelle, qui n'était pas encore Napoléon III lorsqu'il écrit ces lignes, mais tout de même, nous précise, je cite toujours, « Au lieu d'aller chercher des consommateurs en Chine, qu'on augmente donc la richesse territoriale, qu'on emploie tous les bras oisifs au profit de toutes les misères et de toutes les industries, ou plutôt qu'on fasse l'un et l'autre si l'on peut. » Voilà, intéressant. Intéressant. Qu'est-ce qui a fait que ce capitalisme, mille fois décrit comme une force folle, sans signification, et qui court d'elle-même à sa destruction, eh bien, on l'a dit et redit, quand Nélus Castoriadis nous le disait, c'est bien grâce ou à cause des luttes sociales, des luttes notamment ouvrières, dans cette opposition entre le capital et le travail, que le capitalisme a pu survivre et se prolonger en laissant, en apportant un certain nombre de bienfaits à nos sociétés. En lutte, bien évidemment. Une définition un peu rapide, mais qui n'est pas sans intérêt par rapport aux phénomènes auxquels nous assistons sans toujours le comprendre, c'est-à-dire cette déréglementation, sans toujours le comprendre, mais en le subissant et en mesurant chaque jour un peu davantage les effets et les désastres. Aujourd'hui, c'est les patrons eux-mêmes qui parlent de cela à l'intérieur de leur expérience et de leurs entreprises. Un film très intéressant, je le répète, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, de Gilles Perret, « Ma mondialisation », c'est la mondialisation vue par, au fond, un seul patron qui s'appelle Yves Bontaz et qu'on va retrouver à notre tour, qui raconte comment ces dérèglementations bouleversent son entreprise et donc, peut-être lui-même, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, ses salariés et par voie de conséquence, puisque toutes les entreprises, les 500 et quelques entreprises de la vallée de l'Arve sont dans la même condition, eh bien, une modification très importante pour cette société, une modification qui, hélas, ne va pas dans le bon sens. Avec donc ce patron, avec un certain nombre de ses collaborateurs et avec l'économiste Frédéric Lordon, nous partons pour une heure de la basse et j'y suis sur France Inter jusqu'à 16h.
Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer au nom de l'entreprise que votre présence parmi nous n'est plus souhaitée. La décision, en effet, a été prise de liquider l'usine qui vous embauchait. Malgré les dividendes qu'engrangent nos actionnaires, nous ne pourrons maintenir le train de nos affaires qu'en dégraissant la surcharge que vous représentez. Comprenez bien, cher monsieur, cette absolue nécessité. Bien que nos bénéfices aient cette année augmenté, nous ne pouvons prendre le risque de décevoir nos partenaires. Aussi devons-nous nous délocaliser pour un pays au code du travail moins sévère. Nous vous sommes bien sûr très reconnaissants des efforts que vous avez fournis pour notre épanouissement et de l'argent de votre salaire reversé à l'achat des produits que vous aviez pourtant fabriqués. Je sais, cher monsieur, que vous nous serez reconnaissants de vous avoir aiguillé sur de jolis placements, de vous avoir donné expérience et formation qui vous seront très utiles en ces temps de récession. Vous accepter, monsieur, après ces années écoulées, de bien vouloir, par notre groupe, vous faire profondément remercier. Notre société doit conserver sa place de leader du marché. Veuillez accepter votre sacrifice pour renforcer nos bénéfices.
On va aller au chalet de Monsieur Bontaz. Je pense qu'il nous attend à cette heure-là.
Donc là, on va rencontrer Yves Bontaz, un patron d'une grosse entreprise plutôt.
Oui, maintenant ils sont 1000 salariés, donc 300 en France et 700 à l'étranger, en Chine, au Brésil, en République tchèque, aux États-Unis, peut-être bientôt en Corée. Enfin, c'est une success story familiale, on va dire.
Une success story familiale, dit le cinéaste Gilles Perret, auteur du film Ma mondialisation. Et c'est avec lui et avec François Ruffin qu'on va rencontrer donc Yves Bontaz, un des patrons très en vue dans cette vallée de larves. Intéressant parce qu'évidemment, vous avez compris, on est dans le local, hein, mais on va essayer de... C'est le principe, hein, agir local et penser global. Là, on est obligé. Le penser global, la globalisation nous oblige à penser global. Et la grande difficulté est, peut-on agir global? Et ça, c'est pas, c'est une autre paire de manches. Mais on va essayer de comprendre comment ça se passe, cette histoire de ce capitalisme somme toute paternaliste à ce phénomène des fonds d'investissement qui menace ce capitalisme. Il ne s'agit pas de préférer l'ancien, sans doute pas. Mais en tous les cas, il est certain que le nouveau, l'économie financiarisée, on répète cette expression depuis assez longtemps, pour aujourd'hui être assez content de lui trouver une forme concrète et matériel dans la vie pour passer un peu de temps avec ces gens-là, avec en l'occurrence Yves Bontaz, qui ne manque pas évidemment pour commencer de raconter sa success story.
Donc je vais vous expliquer. Là, c'était avant, mon père avait donc deux vaches et puis un cheval, et puis donc après il a vendu son cheval et on a commencé à mettre quelques machines ici. Mon père était agriculteur, puis en même temps travaillait à l'usine, parce qu'avant, il faisait les 2 fois 40 heures, c'était pas comme maintenant. Et moi, j'étais donc ouvrier 2 ans dans une entreprise de la région, qui faisait des machines à décolleter, mais dans la mécanique. Et puis, j'ai donc arrêté chez mon patron, et j'ai commencé avec 2-3 machines ici, dans son ancienne grange à écurie. J'ai embauché mon père comme premier ouvrier, parce qu'il travaillait encore ailleurs, lui.
C'est quoi le bruit qu'on entend derrière?
C'est le bruit des machines. C'était donc la fameuse époque de 70 où il y avait un boulot fou. Tout le secteur automobile avait du boulot. Alors donc, c'était assez facile. Je suis allé à Paris, je suis rentré chez Peugeot, Renault. On nous a accueillis à bras ouverts. Toute la région travaillait, c'était la folie de 70. Mais il n'y avait plus de coiffeurs, plus de bouchers, plus rien. Ils étaient tous à leur compte. Tout le monde faisait du décolletage. Les ouvriers travaillaient 50 à 60 heures par semaine. Tout le monde avait sa villa, c'était... une époque relativement facile par rapport à maintenant.
Quoi, comment ça a changé maintenant, là?
C'est-à-dire, tous les frais de douane sont partis, il n'y a plus de règles. Donc c'est venu une jungle.
Ça, vous l'avez senti, vous?
Ah ben, c'est évident. Les clients ont demandé des prix de plus en plus bas, il a fallu s'automatiser. Et de fil en aiguille, la société a grandi. Et après, bon, on est parti en 1992, on est parti en République tchèque.
Parce que là, on rencontre à Marna, en Savoie, où il y avait la ferme de votre père, mais en fait, vous êtes presque une multinationale à vous tout seul, monsieur Bontaz.
Maintenant, ça a tout changé. C'est-à-dire, ça s'est passé comme ça. Par exemple, Peugeot, Renault nous ont dit, on va monter le moteur au Brésil, en Chine. Si vous ne nous suivez pas, on va trouver des fournisseurs sur place. Alors, on est parti, j'ai pris ma valise et je suis parti dans ces pays, j'ai ouvert les filiales.
Donc, vous ne vouliez pas trop partir là-bas au départ?
Si, ça me plaisait un peu de sortir.
Sortir de la Savoie, ouais, ça vous plaisait?
Sortir un petit peu pour voir le monde.
Donc vous avez vu le monde en délocalisant, alors?
Oui. Ma première délocalisation, c'était donc à Prague. C'est, il y a quand même 12 à 13 ans, c'était à la fin du communisme. Je suis arrivé là-bas et les gens avaient des chars à foin. Les gens faisaient la terre, ils gagnaient 50 euros par mois. C'était la misère. Et quand on est arrivé, ils trouvaient tous les Occidentaux contents, les Allemands et les Français, qu'on arrive là-bas. C'est pour ça que ceux qui tapent à boulet rouge sur la, les localisations à l'étranger, moi je suis contre, parce que s'ils avaient vu comme moi des pauvres Tchèques il y a 12 ans crevés de faim, pas crevés de faim, mais bon, qui vivaient dans une époque pratiquement primaire après la fin du communisme, ils verraient que la mondialisation, ça amène du bien quand même.
Pourtant, dans le film de Gilles Perret, on voit des ouvriers chinois qui travaillent pour vous.
Pour rien, ouais. C'est-à-dire que les prix ont été faits par nos directeurs chinois. Et je ne savais pas qu'ils gagnaient 80 euros par mois. D'ailleurs, suite à ce film, on les a passés à 130 après, quand j'ai appris ça. Maintenant, quand vous allez chez un constructeur, ils vous disent vous avez des usines où vous n'en avez pas en Chine, au Brésil. Bon, même si dans 2 ans, vous ne travaillez plus pour nous.
Et donc, vous dites que vous avez 600 ouvriers à Prague.
Oui, on a 50 ans en Chine, 50 ans au Brésil.
Mais auparavant, tout le montage, il se faisait aussi en France.
Ouais, au début, il était fait en France. Pour ça, on a encore une usine à Cluses, à Thiers. Des usines bon, qui sont à peu près vides maintenant, mais on fait encore les prototypes et les mises au point. Mais dès qu'on a senti que ça pesait sur nos prix, parce qu'on avait nos clients qui venaient pour analyser les prix, dès qu'ils ont senti qu'il y avait trop de main-d'œuvre, ils nous ont dit de partir vite, sans ça que nos prix étaient plus compétitifs.
Donc finalement, c'est les activités où il y avait le plus besoin de main-d'œuvre.
Voilà qui sont partis. On a même un concurrent en Allemagne, il fait faire les pièces dans une prison, tellement l'automobile veut des prix compétitifs. En France, on fera le recherche, on fera le commercial, le marketing, on fera les prototypes, on suivra les premières années, après, on fera plus l'usinage et on fera tout l'assemblage et le contrôle et la logistique dans ces pays qu'on appelle à l'os de cou.
Low cost.
Low cost, je ne suis pas bien fort en anglais.
Et alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, les gens qui avaient peu ou pas de qualifications, qui travaillaient au montage
Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça sera plutôt le personnel féminin et non qualifié qui n'aura pas de travail. Allô? Oui, là, je suis à l'usine du haut, pourquoi? Ben, on revient maintenant.
Moulinex, vous vous souvenez de Moulinex? Comment Moulinex a disparu? Comment Moulinex a coulé? Eh bien, pour Frédéric Lordon, qui est économiste pas forcément comme ceux qu'on entend généralement, du soir au matin, mais surtout le matin, il a un point de vue un peu différent. Il fait entendre une autre musique, Frédéric Lordon. Et ben, pour lui, qui a tué Moulinex? C'est évidemment les marchés financiers, la dure loi des marchés financiers. L'entreprise a exigé des salariés, des adaptations sans fin, sans fin, sans fin. Adaptation dont finalement l'entreprise est morte. Est-ce que ce sera le même scénario pour les entreprises de décolletage de la vallée de l'Arve? Frédéric Lordon s'est intéressé à ce secteur. Il a été l'un des conseillers du film de Gilles Perret, Ma mondialisation, et il nous apporte quelques lumières.
Les salariés sont attachés à un sol, à une terre, enfin, ils ont eu leur maison pas loin de l'usine. Et finalement, le patron local, le patron qui lui aussi avait sa maison pas loin de l'usine, il habitait dans la vallée. Et à l'inverse, on a l'impression d'une rupture de tous ces liens à un lieu, à un sol et entre les hommes, quoi.
Mais là, effectivement, c'est bien là toutes les tendances du capitalisme d'aujourd'hui qui exigent de saisir les opportunités partout où elles se présentent, et même si c'est à l'autre bout de la terre. Alors, quel est l'acteur le plus mobile? C'est la finance. Bon, la finance se déplace internationalement à la vitesse des signaux électroniques qui circulent dans les câbles. Bon. Le capital industriel, lui, déjà, est beaucoup plus difficile à bouger. Mais il peut bouger. Qui sont les moins mobiles et donc les plus vulnérables? Ce sont les salariés qui, eux, sont attachés, effectivement, à leur terre.
Bon, maintenant, vous accrochez à notre petite place, à nos petits 1200 euros par mois, puis voilà.
Quand tu les as,
et puis après, terminé. Il faut se taire. Donc... Je sais pas, peut-être qu'un jour ça va peut-être. Ouais.
C'est à cause des Américains, ils achètent les usines françaises et après il y a plus, après il y a chômage. Enfin, les parents n'ont plus de travail.
Alors, on voit très bien hein, dans le film de Gilles Perret comment opère cette différenciation par la capacité de mobilité. Les fonds de capital investissement qui s'investissent dans la vallée, ils viennent des États-Unis, voilà. Et boum, ils déboulent un jour comme ça. Le père Bontaz, il est mobile, hein, lui aussi. Le voilà parti ouvrir une filiale en Chine, une autre en Tchécoslovaquie, etc. Donc, Dieu sait que son patelin, il doit l'aimer beaucoup. Hein, j'en doute absolument pas. Mais il a été capable de s'en sortir et d'aller voir ailleurs. Et puis, il y a les salariés. Ah oui, mais les salariés, eux, ce sont les plus immobiles de tous. La vallée de l'Arve, c'est leur horizon. Alors oui, bien sûr, un jour, ils pourront déménager, aller ailleurs, etc. Mais avec quel coût, avec quelles difficultés, avec quels arrachements pour la vie personnelle, etc. La finance, elle va de la vallée de l'Arve aux États-Unis, au Japon, en Chine, en un claquement de doigts. Donc, elle estime que les salariés doivent pouvoir en faire autant.
Mais où il est, cet argent ?
Il n'existe pas. C'est du virtuel. Il n'existera jamais. Si on voulait le faire exister, il n'y aurait pas assez d'arbres sur toute la planète pour faire assez de papier, pour faire assez de billets. Et je te parle pas de la couche d'ozone. Hein. On est assez dans la merde comme ça. Hein.
C'est de l'argent virtuel, mais c'est odieux.
Non, c'est magique, l'argent virtuel. Quand il y en a beaucoup, c'est les riches qui en profitent. Quand il y en a plus, c'est les pauvres qui en chient.
Mais si tout s'effondre, qu'est-ce qu'on va devenir ?
M'en fous. C'est le boulot des politiques, ça. Inventer un autre truc qui soit pas coco, qui soit pas libéral. Un truc nouveau, quoi, qui marche.
Et vous, dans tout ça ?
Moi, j'attends que le nouveau truc il soit en place.
Et après ?
Bah, je trouverai un truc pour baiser le nouveau truc. Les Niakoué, les négros, les PD du Sud et les politiques qui l'ont fait.
T'es plein d'espoir, hein ? La suite.
Est-ce qu'on va trouver un peu d'espoir dans cette vallée de l'Arve ? Quoi qu'il en soit, on retrouve Yves Bontaz, le patron.
Donc ici, c'est l'usine du haut, c'est ça ? On vous l'appelle
ouais,
comme ça ?
L'usine du haut, on l'appelle ça.
Et après, c'est l'usine d'en bas ? On
voit
là,
c'est l'usine du bas. Vous voyez une usine à Franck Épinard qui séjourne à quelques difficultés. Et un fonds de pension est venu là. Ils ont déjà refait une vente une deuxième fois. Il y a un an, ça fait partie des 10 plus grosses entreprises qui sont pratiquement passées sur fonds de pension américains.
Vous, on vous a pas fait des propositions
Disons qu'on a vendu une partie et que là, on a tous les 15 jours une offre de fonds de pension qui veulent nous racheter ici.
Tous les 15 jours, il y a des fonds de pension qui veulent vous racheter.
Oui, parce que bon, je ne sais pas si vous suivez la presse économique, mais il y a des milliards et des milliards en réserve dans les fonds de pension américains et canadiens. Et ils attendent vraiment leur poids pour les acheter. Et la valeur des entreprises a presque été multipliée par 1,5 en 3 ans du fait qu'il y a une masse d'argent inutilisée actuellement dans les fonds de pension. On a vendu un fonds de pension canadien. Quand on arrive au bout de 3, 4, 5 ans, c'est que là, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ils ont envie de revendre leur partie. Alors, pour qu'on soit bien vendable, qu'il y ait une bonne présentation de la société. Par exemple, chez nous, ils veulent mettre des directeurs qui présentent bien, avec qui sortent de l'ENA ou des conneries comme ça. Mais bon, tous ces mecs-là, quand ils sont arrivés dans la région, ils ont fait couler toutes les boîtes.
Enfin, c'est pas qu'une question de mode, c'est surtout que les fonds de pension et les financiers ne veulent plus, à la tête des sociétés qu'ils ont rachetées, des gens qui ont encore un peu d'état d'âme vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de la gestion de la boîte et de la pérennité de la boîte. Ils veulent des gens, surtout, qui n'aient pas d'état d'âme si on a un plan social à faire, parce que les gens qui sont créateurs d'entreprises, eux ont quand même quelques états d'âme parce qu'ils risquent de croiser leurs ouvriers sur le marché.
Comme par exemple, ils veulent qu'on mette que nos logiciels de paye comptable soient les mêmes que les grandes boîtes. Parce qu'ils disent, si un jour on se vend, il faut que ça soit tout convertible d'une minute à l'autre. Alors, chez nous, ils voulaient changer tout le système informatique parce qu'on n'est pas dans le type de la société qui est vendable plusieurs fois de suite. Les fonds de pension, c'est pas eux les fautifs, c'est nous qui vendons les fautifs. Et deuxièmement, les fautifs, c'est ceux qui nous achètent pas. Pourquoi les mairies, les régions, les communes, les ouvriers, les syndicats, des industriels français nous achètent pas?
C'est parce qu'eux, ils proposent un prix qui est quand même très 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 élevé.
C'est évident qu'une boîte, maintenant, ça peut se vendre 50 millions d'euros, 100 millions d'euros. Ni le conseil général, ni la commune, ni même une coopérative pourrait payer comme ça.
Donc là, on rentre au Bontaz Centre, ouais. C'est marqué.
Ouais.
Ça vous fait plaisir d'avoir votre nom comme ça, de marquer bon, ici à Marna sur deux usines, mais aussi de l'avoir marqué à travers le monde?
Ouais, ça me fait plaisir qu'il y ait mon nom. Et ça voulait dire le centre de la commune. Parce qu'avant, il y avait 4 Bontaz dans la région. Alors, on les a différenciés comme ça, mais les 3 autres n'existent plus maintenant.
Donc vous êtes en suprématie?
Ouais, ouais. Bon, il est quand même temps de passer un petit peu de le côté du manche, du côté des salariés et du côté des syndicalistes. Voyons comment quelqu'un comme M. Lejmi qui est au syndicat CGT voit ce phénomène.
Là, regarde, maintenant, nous sommes devant Franck Épinard. C'est maintenant, c'est Autocam, il a un drapeau français, un drapeau américain. Les Américains, les actionnaires, c'est vraiment que ce sera allemand, ça sera suisse. Quand il est un banquier qui n'a pas 15% net de BNF, la première chose, réduction du boulot, Bulgarie, République tchèque, Roumanie, la Chine, voilà. Prendre le boulot, que les ouvriers ils sont battus, ils sont crevés le cul pour développer le boulot, pour construire le boulot, vraiment qu'ils l'ont mis sur les quatre roues. Après, vraiment, tout nu, tout bronzé, je prends le boulot, je l'amène là-bas parce que c'est la guerre de la main-d'œuvre. Les banquiers qui n'ont pas 15% net, hein, c'est tout le monde dehors. Juste appuyer sur le bouton vert et les pièces, ça tombe nickel chrome. Regarde, Cartier, Privaz, HF, Bontaz, Franck Épinard, ça reste quoi? Vierchex, vendu. Alors donc, vraiment, qu'est-ce qu'ils vont faire les ouvriers ici dans la vallée de l'Arve?
Il faut des badges partout pour rentrer chez vous.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Bonjour. Vous voulez pas un café?
Non, merci.
Vous n'avez rien dit, directeur des achats, comment enseigne ses clients, ses fournisseurs?
Ah, c'est vous qui allez discuter des prix avec...
Les fournisseurs.
Les fournisseurs, c'est notamment du métal, les tiges en métal, c'est quoi?
Tout. Tout ce qui est métal, composants...
Alors, comment vous négociez?
On leur donne un prix target. Donc on a déjà un prix objectif, et puis il faut qu'ils s'alignent à ce prix-là.
Et s'ils ne s'alignent pas à ce prix-là?
On change de fournisseur.
Et vous en trouvez toujours un qui
s'aligne? Facilement, qui s'aligne, ouais.
Facilement, vous allez où alors pour en trouver qui s'aligne facilement comme ça?
Partout. Alors... Bah, les billes, oui, parce que les billes, en fait, on les achète en Belgique, et on a trouvé un fournisseur en France, et donc on a demandé donc à notre ancien fournisseur de s'aligner. Donc c'était pas possible et donc on lui a baissé sa production de 50% puis on est parti avec notre fournisseur français qui lui les achète en Chine par exemple ou à l'étranger en fait.
Lui il vous les fournit ici mais il les achète là-bas.
À l'étranger, ouais.
Donc la fabrication réelle elle est là-bas.
Elle est là-bas.
Ça c'est régulier que en fait il y ait le service commercial est ici mais en fait la fabrication. Et...
Ça commence à se faire de plus en plus et nous le demande. On est obligé. Tous les ans, nos clients nous demandent des baisses de 3%, 5%. On est obligé de les répercuter sur nos composants.
Finalement, ce que vous regrettez, le rapport qu'il y a vis-à-vis de l'industrie automobile avec vous, vous le reproduisez un peu, M. Bontaz, avec les fournisseurs, en allant chercher...
Mais ça a toujours existé, ça a même...
Mais auparavant, la concurrence, c'était pas forcément entre la Chine, la Belgique, l'Inde,
c'est
le Brésil.
C'était moins vivante. Avant, il y avait la France puis l'Allemagne à peu près, qui était industrielle. C'est vrai que c'est la mondialisation, c'est venu partout.
Et vous êtes arrivé dans l'entreprise pour faire ça? Vous étiez
non.
Déjà fort?
Non, pas du tout. Ça fait 14 ans que je suis là et ça fait pas 14 ans que je suis aux achats. Hein. Donc, moi, j'étais dans l'atelier.
Vous étiez sur les machines
Sur les machines, à monter des gicleurs, je sais à quoi ressemble un ressort, une bille...
Comme on avait beaucoup de personnel en trop, comme on allait en République tchèque, toutes les filles qui étaient capables, on les a mis dans les bureaux, on les a formées pour avoir des postes, plutôt que de les licencier.
Donc finalement, vous, le fait qu'il y ait des suppressions de postes à l'assemblage, ça vous a permis d'avoir une promotion?
Une promotion, voilà. Exactement.
Toutes les employées qui y a là, elles viennent tous de l'atelier. Ben, on va peut-être passer là.
Voilà, bon courage.
Oui, salut Domien, merci.
Au revoir.
Je vais vous faire une usine qui tourne tout seul. Une usine qui tourne tout seul. Il n'y a pas d'ouvriers ou un ou deux. C'est la première commande numérique. Donc là, le plan est fait sur ordinateur. Là, c'est une pièce pour l'Amérique, pour General Motors. Mais cette pièce, après, elle va en République tchèque. Et là, on y assemble des pistons, des ressorts, des joints. Et c'est là qu'on a intérêt donc, d'être en République tchèque. Il y a peut-être 20 personnes qui travaillent sur le produit.
Mais donc ça part en République tchèque.
Et ça part aux USA directement.
Dites, vous avez des pièces comme ça qui partent en Chine, à l'inverse?
Ça en part pareil en Chine, ouais. Cette pièce-là, elle va en Chine, par exemple.
Donc là, il y a derrière le plexiglas, il y a des dames qui travaillent
voilà,
à regarder.
Voilà, alors nous, on a environ 50 dames qu'on ne veut pas licencier par déontologie, mais qu'on pourrait faire le travail en République tchèque. Alors, elles partent à la retraite, mais on ne rembauche personne à leur place.
Donc là, c'est ces dames qui sont sur
ouais,
une petite...
Il y en a un petit peu partout. Il faut de l'assemblage et du contrôle.
Donc ça, c'est les 50 que vous gardez? Ça, c'est
qui nous restait quand on est parti en République tchèque. Disons qu'on n'a pas licencié.
Et donc les effectifs de votre entreprise, ils sont stables ?
Ils baissent. On était 350, maintenant on était 250. Donc on a deux immenses camions qui viennent tous les jours de la Tchéquie et qui ramènent. On a un contrat avec une société de logistique tchèque. Et tous les camions partent d'ici.
Ça coûte combien un chauffeur tchèque ?
Mais c'est pas nous qui les payons, on sous-traite à une société tchèque. Et les camions se mettent là, ça s'en va.
Donc là, on passe dans les bureaux. Bonjour.
Bonjour.
Là, dans le bureau, Monsieur Bontaz, il y a trois horloges. Une horloge qui indique l'heure en Chine, donc il est 3h moins quart en Chine. J'ai pas l'impression qu'elle soit bien réglée, vos horloges, d'ailleurs. La deuxième, c'est marqué Saint-Martin. Saint-Martin, il est 3h30. Et à Brésil, il est 10h moins quart.
J'ai un hôtel à Saint-Martin, qu'on a fait avec la défiscalisation. Ouais, sur l'île de Saint-Martin, un hôtel, ouais.
Alors l'hôtel, là il y a une photo, photo d'une lagune bleue magnifique avec des montagnes. Il n'y a pas le soleil, mais on le devine.
Alors cet hôtel-là, c'était un peu pour plaisir, mais ce qui ne m'a pas plu, c'est que le train glacé GT disait honte à la famille Bontaz qui s'est fait une résidence secondaire à Saint-Martin alors que c'était un outil de travail pour créer quelques emplois là-bas. Puis j'ai un hôtel à Lyon aussi, moi je suis un entrepreneur.
Bah, tout à l'heure, vous plaignez comme quoi on ne pouvait pas investir, il ne vous restait rien après le fisc, la CGT, l'État.
Mais ça a tout été fait par emprunt. Je n'ai pas donné un centime, j'ai emprunté à 100%. Et si vous connaissez un peu la fiscalité, la loi, l'État a fait beaucoup d'avantages à ceux qui défiscalisaient dans les Antilles, parce que ce pays ne sait pas se prendre en compte. Et on est exonéré d'impôts à 50%, tous nos impôts à 50% pendant 10 ans, à peu près. Donc il ne nous a rien coûté, les Antilles.
Et moi, vous croyez que je pourrais acheter un hôtel aux Antilles ?
Peut-être pas, parce que c'est vrai que les banques, elles prêtent qu'à ceux qui ont de l'argent.
Oui, les banques ne prêtent qu'à ceux qui ont de l'argent. Les fonds de pension, les fonds d'investissement, ben, ne prêtent pas grand-chose. Les fonds d'investissement rachètent ces entreprises et n'investissent pas. C'est comme ça que les entreprises, peu à peu, capotent. Et pour la plus grande, plus grand malheur des salariés, mais aussi la grande inquiétude des patrons, des entrepreneurs divers et variés. C'est ainsi que dans la vallée de l'Arve, où nombre d'entreprises ont été rachetées par des fonds de pension, les plans sociaux se multiplient. Et pour la première fois, on a vu des manifestations ouvrières dans cette vallée, spectacle peu habituel. Et les actionnaires de ces fonds de pension ne savent pas très bien les conséquences de leurs investissements, aussi insouciants qu'invisibles. Ils constituent cependant une menace réelle contre les salariés et contre ces entreprises. Cette façon de voir les choses, toute simple, toute claire et semble-t-il toute évidente, ne plaît pas à tout le monde. Et c'est ainsi que le film de Gilles Perret, Ma mondialisation, qui a été vu par nombre de spectateurs, évidemment d'abord dans la région, parce que ça les intéresse beaucoup, c'est leur propre vie, c'est leur avenir dont il est question. Le film a quand même été interdit de projection dans la ville. Le maire de Cluses a interdit la projection du film dans sa bonne ville. On retrouve Frédéric Lordon pour une analyse définitive et provisoire, bien sûr.
On a l'impression que c'est la finance contre l'industrie, le capitalisme financier contre le capitalisme industriel. Comme si là, il y avait le choc, finalement, entre deux capitalismes.
On saisit en général le capital sous l'espèce d'une entité unifiée, homogène, il n'en est rien. Le premier grand clivage, sans doute le plus important, est celui qui en effet oppose capitalisme financier ou capital financier et capital industriel, parce que ce sont deux formes du capital qui sont régies par des logiques tout à fait différentes. L'homme du capital industriel, il a fondamentalement vocation à, je dirais, à faire des choses, à réaliser, à faire croître son entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est les grands mythes mobilisateurs du capitalisme ou du capital industriel? C'est marquer les paysages de son empreinte. Monsieur Bouygues éprouve une jouissance particulière à voir ces ouvrages d'art traverser les paysages de France. Bon, c'est engendrer, être au principe de révolution technologique. Monsieur Bill Gates se vante d'être à l'origine de la présence de PC munis de Windows dans bon nombre des foyers du monde occidental. C'est d'engendrer des dynasties industrielles, etc., etc. Donc voilà, ça c'est les grands mythes mobilisateurs du capital industriel. Évidemment, je ne dis absolument pas que le profit est indifférent pour ces hommes-là. Enfin, ce serait ridicule. Mais le profit n'est pas le seul mobile. L'homme du capital financier, lui, poursuit de toute autre logique. La production, il en est loin. La réalisation, ça ne l'intéresse pas. L'empire industriel, c'est pas son truc. Sa logique à lui, c'est d'investir du capital à un bout et de le récupérer à l'autre extrémité, mais grossit de sa plus-value. C'est la raison pour laquelle il n'y a rien d'autre qui puisse intéresser l'homme du capital financier que la différence entre le capital à la sortie et le capital à l'entrée. Et par conséquent, il n'y a rien d'autre qui puisse le mettre en mouvement que la recherche de la rentabilité financière et du profit pur. Ce qui se passe entre l'entrée des fonds et la sortie des fonds augmentée de la plus-value, ça ne le regarde pas et ça ne l'intéresse pas.
Comment on explique la prise de pouvoir du capitalisme financier sur le capitalisme industriel ?
Alors ça, c'est l'effet d'une loi. C'est l'effet de loi. En France, c'est tout à fait typique. C'est la loi de déréglementation des marchés financiers qui a été passée en 1986. Les réformateurs de l'époque, qui ont le nez vraiment sur le guidon, n'ont pas la moindre idée du changement d'époque qu'ils font connaître non seulement à l'économie française, mais à la société française. Moi, je maintiens que cette loi de déréglementation de 1986 est l'événement le plus important qui soit survenu dans la société française dans le demi-siècle écoulé.
Ça, c'est... À partir de 1986, on autorise les fonds américains à venir racheter des entreprises en France. À partir de 1986, c'est autorisé.
Absolument. Les médias qui ont un appétit insatiable pour les anniversaires ineptes, il y a 30 ans, on fête la première démission de Chirac. C'est bien intéressant. Il y a 25 ans, on fête la mort de Georges Brassens. On paie à son âme. Mais enfin, ce n'est pas des événements quand même très très importants. Personne n'a songé à fêter, il faudrait mettre des guillemets, l'anniversaire de la loi de déréglementation de 1986. Je peux vous garantir qu'elle nous a fait changer d'époque.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de François Ruffin du 4 décembre 2006 qui s'inscrit dans le souci de là-bas si j'y suis d'apporter sa contribution dans le grand débat de la refondation de l'économie et de la finance. Merci à Gilles Perret, Gilbert Benet, Nino Feita, Jean Bucry, Madame Delalba et aux décolteurs de la vallée de l'Arve. À voir ma mondialisation de Gilles Perret disponible au film du Paradoxe.